Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Et l'after continue jusqu'à minuit ici en direct du Qatar. Il est 22h02 en France, minuit 2 ici à Doha, jusqu'à minuit et ensuite jusqu'à 1h du matin avec la Libre Antenne. Vous connaissez la mécanique désormais pendant la Coupe du Monde. Libre Antenne qui vous permet de venir en studio à Paris avec Nico Villas et Thibaut Giangrande. Vous envoyez un mail pour cela à l'adresse suivante standard@rmc.fr. Vous êtes tous les bienvenus. Daniel Riolo est là de retour. Salut Daniel.
Salut Gilbert, salut les amis.
Avec Stéphane Guy, salut Stéphane.
Salut Gilbert, bonsoir à tous.
Oh, bonsoir. Alors l'after est là. Oui, t'étais là pendant le match. On t'a écouté attentivement. Déroulé notamment des stats et tout. On t'a écouté. L'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense. Tout va. Donc on a des invités ce soir ici au Qatar, deux supporters de l'équipe de France, Richard et Benjamin. Benjamin, bonsoir.
Bonsoir.
Richard, bonsoir.
Bonsoir à tous, bonsoir aux afteriens, bonsoir aux expats afteriens.
Ah, parce que toi, tu écoutes l'after ici au Qatar, toi.
Alors moi, ça fait 5 ans et demi que je suis au Qatar et je suis un afterien du podcast du matin.
Et quand il a su qu'il y avait Daniel et Stéphane, qu'est-ce que tu m'as dit, Richard ?
J'ai dit, vous les avez comme pas mis dans le même studio.
Il y a une table, il y a la table.
Je suis étonné de voir Daniel devant moi, je pensais qu'il avait demandé l'asile politique au Qatar, je comprends plus rien à cette Coupe du Monde. Je suis étonné qu'il rentre à Paris avant la fin, je comprends pas.
Ben, l'asile lui a été refusé, peut-être.
Peut-être. Ah, ben, de toute façon, on peut pas avoir la nationalité, c'est pas possible.
J'ai vu ce que j'avais à voir.
C'est le droit du sang qui prévaut.
J'ai vu ce que j'avais à voir. J'ai vu les supercheries qu'on nous a racontées et les mensonges qu'on nous a racontés.
Je suis d'accord avec toi, Daniel. J'ai vu ce que j'avais à voir. Ça fait 5 ans et demi que je vis et je travaille ici, je suis d'accord avec toi.
Les gens parlent sans savoir.
On va évidemment dans l'after ce soir analyser les matchs du jour. D'ailleurs, Florent Germain est encore.
Si tu veux, Gilbert, moi je veux bien, je suis prêt, mais c'est peut-être.
Non, permets-moi de faire d'abord mon sommaire.
Ça intéresse beaucoup de gens, contre. Non, personne. Dans ton monde à toi, mais ça n'intéresse personne en vrai.
Ouais, mais mon monde, il n'est pas si petit, Daniel.
Il est tout petit.
Ouh là là.
Ah bah, il est tout petit dans le monde entier.
Le Qatar est tout petit, mais en France, c'est un sujet qui intéresse les.
Ah oui, en France, la France.
Je peux faire le sommaire, les gars.
Tu rentres d'où, Daniel? Tu rentres du. T'as fait le tour du monde ou t'es allé au Qatar?
Mais le monde était là-bas, justement.
Ah oui, je suis pas. Sûr.
Ah, le monde
sûr.
Était là-bas.
Ah, le monde
mais
était là-bas.
Tu sais rien parce que t'es ici, tu peux pas savoir.
Oui, je suis ici.
Non, on sait.
Ah, tu sais.
Bon, oui. Vous voulez savoir de quoi on va parler, les gars ?
On va parler foot.
On va parler foot, avec l'analyse des matchs du jour. D'ailleurs, Florent Germain est encore là, on va aller le voir dans quelques secondes. Et puis l'équipe de France qui joue demain face à la Pologne, la compo et vos avis sur les Bleus à tous, bien sûr. Flo, t'es toujours au stade, là. Il y a eu une scène de joie argentine qui sont toujours en cours. Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, il y a la communion entre joueurs et supporters et tout.
Exactement, non, mais le match il est fini quoi depuis une bonne dizaine de minutes et ils ont savouré souvent autour de Lionel Messi et dans un stade où la plupart des supporters argentins, enfin quasiment tous, sont encore restés. Ils ont chanté les 2-3 chansons qu'on entend un peu partout dans le métro ou dans le vestiaire, ça dépend si ce sont les supporters ou les joueurs qui la chantent. Mais
j'espère que tu la connais par cœur maintenant, Flo.
Ouais, il y en a une ou deux je connais. Ouais. Et les paroles, pour ceux qui ne les comprennent pas, parce que là c'est un petit peu lointain, c'est « Quiero ser campeón mundial, quiero ganar la tercera ». Et c'est marrant parce que les deux Paul et Papu Gomez, qui sont un peu les deux leaders, un peu, allez, c'est presque les capots du vestiaire, ce sont eux qui se mettent à chanter comme des vrais fans au milieu de la pelouse. Messi est évidemment de la partie. Et on a vu aussi Angel Di Maria, ça devient une info parce qu'il s'est mis à sauter avec ses coéquipiers. Donc quand je dis que c'est une info, c'est qu'il a peur de trop souffrir des quadriceps. Du quadriceps. Donc voilà. Bon. Mais grosse ambiance à un quart d'heure après le final de cette rencontre. Les Argentins, les supporters ne veulent pas quitter ce stade Hamad Bin Ali et mettre le feu. Attention, c'est un peuple qui est en mission. C'est la sensation que ça donne. Il va falloir aller les chercher, les Argentins.
Ouais, ben, peut-être qu'on va en parler, mais peut-être qu'ils sont plus performants dans les tribunes que sur le terrain. On va voir dans quelques minutes ensemble. Et bien sûr, en tout cas, on peut considérer que c'est de loin le plus gros contingent.
Que tu m'expliques comment tu peux dire ça ce soir, quoi. À part le premier match qu'ils ont raté, faudra que tu m'expliques où est-ce que les Argentins sont pas parmi les meilleurs équipes.
Ils ont pas ce soir, Daniel.
Ils t'ont impressionné. Moi, ils m'ont pas impressionné ce soir.
Ce soir, ils font un très bon match.
À petit rythme.
Ah, peut-être, mais ils font un très bon match.
Ouais, bah ils étaient meilleurs sur le dernier match de poule, par exemple. On va en parler ensemble dans quelques instants.
Très nettement.
Ouais, je crois pas parce que les Australiens sont vraiment très très chiants à bouger parce qu'ils jouent en bloc hyper bas avec des lignes très compactes. Avoir mené 2-0, avoir quasiment tout le temps eu le ballon, n'avoir concédé que une frappe la dernière, parce que le but c'est même pas une frappe cadrée, c'est une frappe tribune qui est déviée. Franchement, honnêtement, c'est plus parce que Lautaro Martinez sur la fin a un peu cagué 2-3 occasions. Mais ça peut faire 3-0 beaucoup plus que 2-1 ou 2-2, ce qui aurait été complètement fou d'ailleurs si c'était arrivé. Enfin, il y a une domination sans partage, quoi.
Ouais, mais il y a très peu de tirs argentins, il y a peu d'occasions sur le match, il y a une possession très nette, il y a une domination, mais c'est pas une équipe qui a régalé du tout.
Avant d'entrer dans les détails, bon déjà Florent, tu peux leur dire qu'ils peuvent rentrer, hein, les Argentins, là c'est bon, c'est fini.
Et moi je vais aller en zone mixte. C'est la zone mixte, merci. La zone d'interview avec les Argentins, c'est un spectacle. Hein. Faudra que je vous raconte ça un jour. Ouais, tout à l'heure. Bah, non, parce que Léo Messi il sort à 1h30 du matin, heure française.
Donc, il est pendant tout le temps.
Ben, je sais pas. En fait, c'est un spectacle, donc t'attends 2h, 2h30 en général. Et là, tout d'un coup, ça débarque. Ils débarquent tous ensemble. Il y en a un qui arrive un peu en décalé. C'est Léo Messi. Et Léo Messi, il a ses 4-5 journalistes auxquels on sait qu'il va parler. Il y en a une des télés, Véro Brunati, que certains connaissent. Il y en a un des radios. Donc, faut se positionner, faut prendre la perche. Moi, j'ai ma petite perche qui va bien, je suis habitué. Et j'arrive à vous ramener du Messi que vous pourrez entendre demain matin sur RMC. Mais c'est le deuxième spectacle argentin qui commence, cette fameuse zone d'interview. Alors juste un truc, c'est quand les Espagnols veulent l'avoir, là c'est foire d'empoigne, mes collègues de la Cadena Ser, de la Copé, etc.
Ah oui, ils rentrent dans les Argentins quoi.
Ah mais ils veulent leur Messi, alors ils l'attrapent par le coude s'il faut, les barrières elles tombent, enfin c'est une zone d'interview avec les Argentins, c'est exceptionnel, c'est du jamais vu, on voit même pas ça dans des gros matchs de Ligue des Champions, c'est un autre monde.
Bonne bagarre alors, hein. Et puis tu nous raconteras demain.
Je vous raconterai ça avec plaisir. Ciao les amis.
Salut Florent. On a également du rugby et la fin du match Stade Français La Rochelle. Arnaud Valadon, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous. Deuxième journée, c'est reparti depuis 3 minutes. On joue la 43e. Le score n'a pas évolué avec cet avantage au score pour le Stade Français. 2 essais 1, 15 à 14.
Avant de parler de l'Argentine dans le détail, avant de parler des Pays-Bas également dans le détail, dans quelques instants on aura Georges Quirino avec nous depuis Buenos Aires, ensuite à Johan Crochet, notre spécialiste des Pays-Bas pendant cette Coupe du Monde. Un mot des invités qui sont là avec moi dans le studio au Qatar. Benjamin, tu es venu voir les matchs des Bleus.
Exactement, je suis venu voir le match.
Quel est ton projet personnel?
Le match de la Pologne demain.
Ah pourquoi donc?
Bah parce qu'on vient supporter donc justement l'équipe de France et on aura la chance d'assister à ce huitième de finale qu'on attendait avec hâte et pour ma part ça va être ma première participation à un match de l'équipe de France. Contrairement à mon collègue en face qui lui on a déjà fait 10 fois plus depuis le début de la Coupe du Monde. Donc voilà, j'ai hâte et j'ai bien retenu qu'on attendait beaucoup des supporters français, qu'on soit un peu plus présent, donc on mettra de la voix.
Ah oui, les supporters français déçoivent.
Il paraît.
Par rapport à ce qu'ils produisent dans les tribunes, on veut dire.
Parce que sur le terrain, je trouve qu'on est plutôt pas mal.
Oui, ils sont moins nombreux que les Argentins, par exemple.
C'est classique. Hein, on est tellement en dessous au niveau supporters que les Sudam, que en plus en nombre que les Africains. On est déjà dans le nombre, on est inférieur. Et après, pour ce qui est de savoir mettre l'ambiance, les chants et tout, on n'est pas très très fort. C'est pas vraiment notre culture.
Bon, on avait l'autre soir, Daniel, rappelle-toi avec nous, des supporters qui étaient même un peu déçus parce qu'ils disent dès qu'on veut pour lancer un chant, un peu de chambrage et tout, il y a les responsables des Irréussis français qui disent non, faut pas chambrer quand même, c'est pas bien. Enfin bon, donc il y a quelques difficultés à créer quelque chose dans les tribunes ici côté français. Alors, tu as de la famille illustre, Benjamin, paraît-il.
Exactement, oui.
Vas-y, donc, raconte.
Tout simplement, j'ai le frère de ma grand-mère, Jean Barat, qui a joué de 44 à 52. Donc on parle d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître.
En Lillois, de France.
Exactement. Et qui a même été capitaine de 49 à 52, si je ne m'abuse. Donc, bon, lui, il a en effet un peu tout raflé. Il a eu.
La grande équipe de Lille des années 50, ouais.
Exactement. Il a gagné 4 Coupes de France et 2 championnats. Donc, il a fait mieux à lui tout seul que moi depuis que je regarde le LOSC depuis 41 ans, en effet.
Bon. Ouais. Et Richard, toi, t'es expatrié au Qatar ici?
Oui, alors moi je suis arrivé au Qatar en 2017, j'ai eu cette chance d'être appelé pour accompagner le programme Rafale. Et en tant que supporter du PSG, c'est quand le Qatar vous appelle, vous pouvez pas refuser. Donc je suis ici depuis 5 ans et demi et une chance incroyable, la Coupe du Monde se déroule dans le pays où j'habite.
Donc tu bosses sur les avions quoi?
Pas sur les avions, mais on accompagne le programme, ouais.
Voilà, et rappelons-nous que dans l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, il y avait eu dans les négociations entre Sarkozy, l'émir et tout, la vente des avions. Mais les Qataris sont sympas, ils ont acheté des avions à tout le monde.
En effet.
Voilà. Ça arrose la terre entière.
Et étant expat sur place, j'en suis à mon 10e match. Et demain, j'ai évidemment le 8e de finale. Et j'ai le pack.
Mais attends, raconte-moi surtout un truc. Vous écoutez l'after entre collègues ici?
Alors, c'est ça. En fait, on est passionnés de football. J'ai des amis qui sont supporters de beaucoup d'équipes, dont Steve, supporter de Marseille. On se déchire sur le championnat de France, mais on se rejoint sur l'after et on débriefe l'after.
Excellent, voilà. Les expatriés français qui
alors, nous sommes des afteriens du podcast. Hein, parce qu'évidemment, vu qu'on se lève très tôt avec le décalage horaire, on vous écoute dans les bagnoles.
Bon, vous participez au débat avec nous, les gars. Avec plaisir, vous restez tant que vous voulez. Georges Quirino va nous rejoindre dans quelques instants, dans deux minutes, pour parler de l'Argentine, bien sûr. Oui, alors là, on n'était pas tout à fait d'accord sur le rendement. On va voir ce que Georges en pense. Georges, bonsoir.
Salut les gars, je suis au milieu de la foule. Hein.
Donc, ah bon?
Vous allez surtout entendre l'ambiance, je pense, derrière moi. Ouais, j'étais dans le quartier de Montserrat, dans le centre de Buenos Aires, dans un bar qui s'appelle Locos por el Football, fou de football. Et il y avait des centaines d'Argentins qui ont coupé une rue carrément pour suivre le match avec les tambours, avec les écharpes. Ils sont encore en train de faire la fête ici pour cette qualification.
Il est quelle heure à Buenos Aires?
Ils retiennent surtout. Il est 18h13. Ah donc là c'est le début de la soirée, ici ça va être la fête toute la nuit, tu imagines.
Voilà, est-ce que sur le rendement de l'équipe, tu as trouvé une très bonne Argentine ou une Argentine moyenne ce soir?
J'ai trouvé une Argentine moyenne, ça m'a un peu rappelé le match contre le Mexique, je ne sais pas ce que vous avez vu vous sur cette rencontre, c'est-à-dire beaucoup de nervosité au début du match, je les ai trouvés aussi un peu en difficulté physiquement à la demi-heure de jeu, et c'est vrai que beaucoup de monde a eu un peu peur ici après cette première mi-temps. Et après, Messi a remis tout le monde sur les rails, quoi, j'ai l'impression surtout. Ici, c'est ce que disent beaucoup les supporters et aussi les analystes, que même si le collectif n'est pas forcément apparu, peut-être comme contre la Pologne, le leadership de Messi, le caractère qu'il a montré a permis à l'équipe de rester unie et de permettre d'aller chercher cette qualification avec les dents, finalement. Et au final, plus que la forme, c'est surtout le résultat qui est retenu ici par les supporters en attendant de voir un vrai test face à une équipe européenne, face aux Pays-Bas. Même ici, les analystes, j'ai écouté Baptiste Luta hier notamment, disaient voilà, il faut surtout attendre de voir ce que va avoir cette équipe contre une grosse écurie. Donc tout le monde attend de voir maintenant le test face aux Pays-Bas, évidemment. Mais avant, c'est la fête, évidemment.
Bon, on t'entend pas très bien, Georges. Hein. On va te laisser faire la fête chez les locaux de football, là, parce que c'est un peu compliqué de t'entendre correctement, malheureusement. Oui, donc finalement, on n'est pas tellement d'accord sur ce qu'on a vu de l'Argentine. Moi, je suis plutôt sur la ligne de Georges et Stéphane. C'est-à-dire qu'ils ont été bien meilleurs contre la Pologne, en effet, Daniel. On va dire qu'ils sont capables de beaucoup mieux. Là, ils ont tranquillement géré leur match face à une équipe qui était plus faible, évidemment.
Je maintiens, je suis pas d'accord. Et entre très bonne et moyen, il y a bonne. Et moi, je vais prendre cette option-là, puisque tu sais, la question que tu as posée à Georges, c'est très bonne et moyenne. Moi, je pense qu'on a vu une bonne équipe d'Argentine qui a fait l'essentiel du jeu. Les Australiens, quand ils jouent de cette façon, ils jouent toujours de cette façon. Soit tu les fais péter très vite, ou peut-être que c'est la France qui est super forte de leur avoir collé la raclée qu'ils leur ont mis au premier match. Mais quand on a vu les autres matchs que les Australiens ont fait, ça correspondait déjà plus à ce qu'on a vu ce soir, c'est-à-dire ce bloc, ces lignes super serrées. L'Argentine a mené quand même 2-0 dans un match qui était absolument sans histoire et dans lequel il y a eu un début d'histoire à partir du moment où le mec a mis une frappe qui devait aller en tribune et qui est allé au fond des filets. Sinon, il y avait zéro histoire dans ce match et l'Argentine n'avait pas besoin non plus d'en faire plus. On est dans un huitième de Coupe du Monde. Les huitièmes de Coupe du Monde où une équipe...
Ils auraient pu s'épargner de trembler à la fin en mettant un troisième à un moment. Quoi.
Mais en mettant un troisième, Lautaro Martinez, s'il traverse cette Coupe du Monde, l'histoire, elle est que Lautaro Martinez est titulaire au début de la Coupe du Monde, qu'il est dans ce match où ça Coupe du Monde à lui personnellement bascule du côté obscur quand ce but où il est pas vraiment hors jeu, si jamais il est validé, peut-être que c'est tout le parcours de l'Argentine jusque là qu'on regarde d'un autre œil, et surtout le sien, parce qu'après il perd sa place de titulaire et on voit bien qu'il est atteint mentalement. Il a trois occasions nettes dans le peu de minutes qu'il a passé dans ce match. Alors évidemment ça figure pas dans les frappes cadrées, mais quand tu te retrouves à 10 mètres en face du gardien seul et que tu la mets au-dessus, ok, c'est pas une frappe cadrée, mais pardonne-moi, c'est une situation extrêmement dangereuse qu'un type en perte de confiance ne met pas au fond. Mais l'occasion, ils l'ont créée, et ils en ont créé plusieurs ce soir, des comme ça. Donc moyenne, je sais pas ce que ça veut dire. Très bonne, c'est pas très bonne, parce que très bonne, bon, ils auraient gagné 3-4-0, mais en huitième de finale de Coupe du Monde face à une équipe qui refuse le jeu et qui en plus est vraiment offre un style que les Argentins détestent, c'est-à-dire que de la baston, que du contact, que de la baston, que du contact. Tu sais combien de kilomètres ils ont couru les Australiens ce soir? 120 kilomètres. Normalement, une équipe qui court 120 kilomètres, elle cause beaucoup beaucoup de problèmes et souvent même elle gagne les matchs. Ça veut vraiment dire
qu'ils ont aussi couru 120 kilomètres, parce que vous avez dû voir ça évidemment. Ils sont quand même ultra organisé. Je pense que c'est l'équipe la mieux organisée de la Coupe du Monde.
Mais en fait,
en termes de respect des positions, écartement des lignes et tout, c'est au millimètre.
Exactement. Et comme ils sont pas habiles, et comme techniquement, franchement, ils sont pas habiles, ils ont les pieds carrés. Même en courant 120 km, ils se créent même pas une occasion. C'est dire, ils sont très loin en matière de football. Mais en matière d'organisation défensive, le foot permet ça. On le sait, on connaît ce sport. On sait qu'il y a des équipes en bois qui sont capables de créer des gros problèmes à des équipes qui essayent de jouer. Parfois, ces équipes-là,
l'Argentine a peu essayé de jouer, Daniel. L'Argentine a été sur un tir.
Elle avait tout le temps le ballon. Elle était tout le temps dans le camp adverse.
Évidemment, mais
c'est dur de trouver la profondeur.
Il n'y a pas photo entre l'Argentine et l'Australie. Il n'y a pas photo sur le match. Et l'essentiel pour l'Argentine, c'est de se qualifier pour la ligne. Il n'y a pas de débat ce soir. Mais c'est une équipe que j'avais trouvée très entreprenante face à une même genre d'équipe. La Pologne, c'est l'Australie en mieux. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est capable, qui est aussi bien organisée peut-être, qui est capable en plus.
Et un peu plus de technique,
un peu plus offensivement d'apporter du jeu. Donc ils avaient fait un très très bon match. Par rapport à leur match contre la Pologne, moi je les trouve un peu en retrait. Après, on s'en fout. L'important pour eux, c'est qu'ils soient en quart de finale. Ils ont 5 jours maintenant pour préparer le match contre les Pays-Bas. Et ils ont surtout une nouvelle merveilleuse, c'est qu'ils ont un Messi au top, quoi. Ils ont un Messi qui a marqué son premier but dans une phase éliminatoire de Coupe du Monde, ce qui paraît dingue, le jour de son 1000e match. Et c'est un Messi qui va guider, qui va inspirer les autres, qui montre le chemin. Et ça n'a pas de prix pour l'Argentine.
Benjamin, Richard, vous en dites, vous êtes d'accord avec ce que disent Daniel et Stéphane?
L'Argentine est évidemment très difficile à jouer. Messi focalise tout le monde. Tout le monde est focalisé sur Messi ou Ronaldo. Il faut qu'il y en ait des deux qui gagnent leur Coupe du Monde. Moi, je ne les vois pas aller au bout.
Ah ouais?
Non. Non, non.
Parce qu'il y a plus fort, en fait. Oui. Après, on ne sait pas, dans les confrontations.
Non, je ne les vois pas aller au bout. C'est un peu Messi et le reste du monde. Ronaldo et le reste du monde pour le Portugal, que j'ai vu jouer aussi. Non, c'est aucune des deux équipes m'a impressionné pour le moment.
Alors après c'est ton avis, mais le Portugal, c'est surtout pas Ronaldo, le reste du monde. Le Portugal, c'est une vraie équipe de foot avec un Ronaldo qui est presque parfois qui est pas un problème quand même, parce qu'il est pas si mal finalement. Moi il m'étonne, il m'étonne plutôt en bien depuis le début de la Coupe du Monde. Mais c'est une belle équipe, le Portugal. C'est une vraie équipe en tous les cas.
J'ai du mal à comprendre, parce que des Coupes du Monde, on en a vu dans notre vie tous autant qu'on est. Et mais alors c'est vrai que comme c'est tous les 4 ans, je pense qu'on oublie comment ça se déroule, une Coupe du Monde. Le côté
l'équipe du début n'est pas forcément l'équipe qui est de la fin.
La phrase cette équipe ne m'impressionne pas, ou cette équipe a pas fait ci, a pas fait ça, en Coupe du Monde, ça veut rien dire du tout, quoi. Les Français en 2018, ils impressionnent personne en poule. Ils font un match un peu carnaval contre l'Argentine. Ils impressionnent personne contre l'Uruguay. Contre la Belgique, c'est à l'arrache. Ils finissent champions du monde. Vous voulez qui encore? L'Allemagne 2014.
L'Italie, le dernier rôle, Daniel, tout simplement. Qui est une équipe qui a jamais donné l'impression d'être très supérieure à ses adversaires.
Alors remontons encore plus loin, Stéphane, puisque tu parles de l'Italie 2006, qui joue en huitième contre l'Australie, où ils se qualifient à l'arrache 1-0 sur un péno discutable de Totti. Après, ils ont un bon tirage pour prendre l'Ukraine en quart 3-0. Le seul gros match, énorme match, c'est cette demi-finale contre l'Allemagne. Ouais. Et après la finale, on se souvient tous comment ça s'est passé. L'Espagne impressionnait tout le monde dans le jeu en 2010. Et ça, c'est vrai, c'est peut-être le dernier souvenir qu'on a d'une équipe qui était au-dessus tout le temps de ses adversaires, mais qui ne gagnait les matchs que 1-0. Parce qu'elle trouvait tout le temps des défenses très regroupées. L'Allemagne, en 2014, ils font un huitième contre l'Algérie. Les Algériens sont héroïques sur ce match-là. bon, c'est en demi-finale quand ils pètent le Brésil en deux que vraiment, ok, on voit qu'ils ont l'équipe pour aller au bout. Et ils affrontent l'Argentine qui n'avait pas impressionné grand monde avant d'arriver en finale. Les Coupes du Monde, c'est pas j'impressionne du monde. C'est, il y a les matchs qui arrivent. Là, pour le coup, la vieille phrase, les matchs les uns après les autres, elle prend tout son sens parce que t'as même pas réellement besoin de mettre un jeu en place, en fait. La France nous l'a montré il y a 4 ans. Autant quand tu vois du championnat avec une équipe de club.
Match par match, c'est une problématique. Et c'est ça.
Alors, il y a quand même une petite différence.
C'est pas le club. Il y a quand même une petite différence. Il y a les 38 journées, c'est match de Coupe d'Europe. Pardon, Gilbert?
Il y a quand même une petite différence. C'est qu'il y a quand même deux équipes qui, quand elles mettent leur équipe type, ont effectivement assez impressionné sur le premier tour. C'est le Brésil et la France. Donc forcément tu vas forcément comparer tout le reste à ce que tu as vu du Brésil et de la France.
Moi je veux bien, moi
vous voyez ce que je veux dire.
Moi je veux bien que la France ait impressionné, mais alors quand tu vois qu'elle moi elle m'a impressionné très fort la première mi-temps contre le Danemark. Et d'ailleurs, je me souviens que ce soir-là, plein de gens étaient pas d'accord avec moi en disant que j'exagérais. Et moi la première mi-temps contre le Danemark, je l'ai trouvé formidable. Mais après coup, quand tu vois que le Danemark termine dernier de la poule et a même été battu par l'Australie, je me dis bah merde, alors peut-être que les Danois ils avaient la tête à l'envers. Donc il faut peut-être relativiser. Donc en fait, il faut éviter d'à chaque fois, c'est comme dit Stéphane, c'est chaque match est une problématique en Coupe du Monde. Et
même le Brésil, moi j'ai commenté les 3 matchs du Brésil. Bon, évidemment, que ce soit une bonne équipe, il y a pas de débat. Il y a des joueurs formidables dans toutes les ligues, mais il y a pas une impression. De toute façon,
le Brésil-Serbie quand même.
Cette Coupe du Monde, Gilbert,
il dégageait un truc sur le Brésil-Serbie, Stéphane, qui était quand même super positif. T'as eu une impression de maîtrise technique, un rouleau compresseur.
C'est un match.
Ce que je veux te dire, Gilbert, c'est que c'est la première Coupe du Monde où aucune équipe ne fait le grand chelem au premier tour.
Ça c'est déjà un point très intéressant.
Et ça c'est arrivé en 94, je crois.
Pardon.
En 94.
Depuis 94, c'est
rare. C'est très rare.
En 94, c'est arrivé aussi.
C'était pas une très bonne Coupe du Monde d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire?
Je sais plus. Tu disais qu'il n'y avait pas d'équipe qui avait gagné les trois premiers matchs. Donc probablement ça voulait dire.
Oui, moi j'ai pas vu. Je regardais tout à l'heure cet après-midi les 16 qualifiés. Il y en a pas un dont je me dis celui-là a tout elle nous a montré tout ce qu'il faut pour aller au bout. Donc il y a des points positifs sur beaucoup d'équipes et des points un peu en retrait sur beaucoup aussi, quoi. Voilà, c'est mon avis.
Voilà, tu peux mettre la France effectivement sur cette première mi-temps contre le Danemark, mais d'abord le 8e a pas été joué. Qu'est-ce qui se passe si un joueur se blesse? On a bien vu qu'au niveau des remplaçants, on était léger. Qu'est-ce qui se passe s'il y a 2 cartons? Tu sais, il reste encore.
Tu n'es jamais que 2-1, Daniel, avec une frayeur quand ils reviennent à 1-1 et un but. Je vais pas vous dire venu d'ailleurs,
Donc il faut se méfier des impressions, de dire cette équipe m'impressionne pas. On parlera des Pays-Bas tout à l'heure. Écoute, la première mi-temps, c'était vraiment, pour ce qui est de la tradition hollandaise du jeu, c'était à la poubelle. Et la deuxième mi-temps, je les ai trouvés très bons.
Le meilleur des Pays-Bas, c'est Van Gaal ce soir dans ses déclarations. Enfin, on en reparlera tout à l'heure.
Exactement. Dans un instant, on revient avec Georges qui, cette fois, sera sorti de son bar pour reparler un peu des performances individuelles. Et ensuite, les Pays-Bas, effectivement, sont au programme jusqu'à 23h. Et ensuite, ce sera l'équipe de France qui joue demain face à la Pologne sur RMC à 16h. À tout de suite sur RMC dans l'after.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.